Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans le cadre du programme Nation Apprenante, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, nous vous invitons tous les jours à 11h à plonger dans le portrait biographique et documentaire d'une femme ou d'un homme d'exception. Entre découvertes, connaissances et émotions, nous nous engageons sur la piste de toutes celles et ceux qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Grandes figures littéraires, grands penseurs ou grands personnages historiques, bienvenue dans toute une vie.
Madrid, 29 octobre 1954. Je rentre demain travailler à Antibes. Bon voyage. Pas mal de dessins, quelques objets pour les natures mortes dans ma valise, si la douane le veut bien, et une envie fantastique de peindre des personnages, des portraits, des hommes à cheval, des marchés pleins de monde. Et la salle Velasquez. Tellement de génie qu'il ne le montre même pas, disant tout simplement au monde « Je n'ai que du talent, mais j'en ai sérieusement ». Quelle joie, quelle joie! Solide, calme, inébranlablement enraciné, peintre des peintres à égale distance des rois et des nains, à égale distance de lui-même et des autres, maniant le miracle à chaque touche, sans hésiter, en hésitant, immense de simplicité, de sobriété, sans cesse au maximum de la couleur, toute réserve à lui, hors de lui, et là sur la toile. Donne l'impression claire d'être le premier pilier inébranlable de la peinture libre. Libre, le roi des rois. Et tout cela fonctionne comme les nuages qui passent les uns dans les autres avant que le ciel ne soit ciel et terre, terre. Merveilleux, Jacques, absolument merveilleux. Il y a exactement 25 ans que je n'avais vu ces tableaux. J'y suis allé tout droit, mais je ne les ai vus que pour la première fois aujourd'hui. Nom de Dieu, quelle histoire! Cette salle Velasquez, il faut voir cela, Jacques, il faut le voir. Si vous venez à Antibes, je vous mets dans l'avion à Nice et 2 heures après vous serez au Prado. Il faut voir cela absolument. Au fond, je garde 2 impressions majeures. Les colonnes à Grenade et la salle Velasquez ici. Le reste vacille. Lettre de Nicolas de Staël à Jacques Dubourg.
Séville est une ville évidemment étonnante puisque c'est la porte de l'Amérique et que c'est une ville qui accueille toutes les richesses qui viennent d'Amérique. Mais le passage du XVIe au XVIIe siècle se fait difficilement. Cette manne qui arrive d'Amérique commence à être... Elle est toujours aussi abondante, mais disons qu'elle n'est pas très bien partagée. Il y a aussi beaucoup de pénuries dans certains milieux de Sévillans, mais les milieux... Acheteurs d'art sont effectivement très demandeurs surtout des peintures religieuses, puisque la spécificité de Séville en matière de peinture, ça sera quand même la peinture religieuse. Disons que le changement des siècles est aussi intéressant du point de vue historique pour l'Espagne, puisqu'il y a un changement, un passage de cette Espagne de Philippe II qui se finit avec une note assez sinistre, assez noire. Cet homme enfermé à l'Escorial, veuf 4 fois, qui a perdu beaucoup d'enfants, il laisse un héritier. Il est conscient que son héritier n'aura peut-être pas la même envergure politique que lui. Et l'Espagne, en quelque sorte, revit aussi un peu à la mort de Philippe II. On inaugure une période de fêtes même un petit peu excessives, sans aucun doute. Mais les règnes de Philippe III et de Philippe IV vont être en fait les 2 règnes de la vie de Velázquez. On peut considérer que c'est un grand siècle d'or des arts, de tous les arts.
Et donc c'est dans cette situation que naît Velázquez, et ses parents sont de petite noblesse. Araceli Guillaume Alonso.
On le pense, on a tout dit. On a aussi dit qu'il était descendant des convertis juifs d'origine portugaise qui arrivent à ce moment-là en Espagne et qu'on a caché les origines, qu'on a même falsifié évidemment la lignée. On n'a aucune certitude. Ce nom de famille portugais, Silva, effectivement est là. Il a quelque chose, il est portugais en partie, mais on ne sait pas si cette origine portugaise appartient à la petite noblesse ou est issue de la petite noblesse ou si c'est au contraire, une lignée juive. Il appartient à un petit milieu, puisque autrement, il n'aurait pas été placé pour devenir peintre, c'est-à-dire après tout, un travailleur manuel. S'il était issu d'une vraie noblesse, il était hors de question de le faire entrer dans un atelier à l'âge de 11 ans, comme ça a été son cas.
Donc, il arrive chez son maître Francisco Pacheco, et son maître lui accorde sa fille assez rapidement, puisqu'il...
assez rapidement. En fait, on sait tellement peu des choses de la vie privée de Velázquez que tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est peut-être une tradition, après tout, pour la fille aînée d'un maître d'atelier, d'épouser l'apprenti le plus doué.
Et c'est à ce moment-là, Claudie ressort, que Velázquez peint ce tableau qui est fameux, qui est la vieille femme faisant frire des œufs.
Oui, c'est un tableau qui est daté. Et la date a apparu au moment de la dernière restauration, 1618.
Et Velázquez a 18 ans, puisqu'il est né en 1599.
Donc certainement, nous ne connaissons pas ses premiers tableaux. On ne peut pas débuter avec un tableau composé d'une façon aussi équilibrée et peint avec une sûreté extraordinaire.
Il me semble que le tableau un des plus beaux pour moi de Velázquez et qui est la clé de son œuvre, c'est Le Marchand d'eau de Séville, donc un tableau de la période encore caravagesque, parce que précisément c'est l'image d'un don. Ici, on a pensé d'ailleurs que ce tableau faisait partie des œuvres de miséricorde, comme la vieille femme qui fait frire les œufs aurait été donner à manger à ceux qui ont faim. Ce tableau serait l'illustration de donner à boire à ceux qui ont soif. C'est un vieil homme, donc ce tableau est l'histoire d'une transmission, d'un héritage. Un vieil homme qui tend dans un silence religieux, dans le rituel silencieux de l'image. On a vu combien le silence de la peinture est la condition même d'émergence, de la présence des figures, qui tend donc ce verre d'eau dans lequel on voit une figue pour parfumer l'eau à un jeune homme. Il ne se regarde pas, il médite le geste rituel qu'ils sont en train d'accomplir. Et entre le vieillard et l'enfant, il y a ce troisième personnage, on a pensé que c'était les trois âges de la vie, qui fait le geste de boire et qui est comme l'esprit qui les réunit. Et ce qu'il y a de merveilleux dans ce tableau, c'est que la gravité du don, de l'échange, de la reconnaissance, je pourrais presque dire la courtoisie, pour employer un mot qui dit précisément le jeu des échanges, des respects mutuels, qui sont dus à la cour, mais toute la société ici, même misérable, est vue avec la noblesse de la cour, eh bien, la gravité de cet échange fait effet de peinture. C'est-à-dire que, par exemple, cette jarre d'eau sur laquelle on discerne une petite goutte d'eau a une présence extraordinaire. Et on comprend très bien que c'est le geste de l'échange qui, suspendant l'image dans une lumière presque magique, sculpte les formes, comme le pichet également sur la table, comme le verre d'eau lui-même qui est une véritable merveille de peinture avec cette figue qui est au fond du verre pour parfumer l'eau, les mains, tout ici acquiert une puissance de présence, une puissance picturale pour ainsi dire, qui est un effet de la gravité du don et du silence, du fait que cet échange se situe en deçà du langage.
Sur le plan politique, Araceli Guillaume Alonso, en 1621, il y a un grand changement en Espagne puisque Philippe IV succède à son père.
Philippe IV va être vraiment le roi qui va être au centre de sa vie, puisqu'il va, en quelque sorte, sa vie va être, la vie de Velázquez va être très dépendante de sa relation, de sa situation, à partir du moment où il va essayer de monter à Madrid. Et c'est politiquement relativement facile pour lui de monter à Madrid dans un premier temps, puisque le grand favori, le grand ministre, dès l'arrivée sur le trône de Philippe IV, son grand ministre, très vite, va être Olivares, et Sévillan. Et Olivares fait venir Velázquez à Madrid.
Et c'est à ce moment-là qu'il a ses premières commandes, dont le portrait du roi.
Il va faire ce portrait du roi, et ça va être la révélation. Alors, dès que le portrait du roi a été fait, effectivement, on a trouvé qu'il ne pouvait pas faire peindre, son portrait ne serait plus peint que par, pratiquement, hein, il y a quelques exceptions, que par Velázquez.
Jacques Darrieulla, vous êtes professeur de philosophie de l'art. Au fond, qu'est-ce qui vous intéresse spécialement chez Velázquez ?
C'est un paradoxe. D'une part, Velázquez est le modèle même du peintre courtisan. Un peintre courtisan, on a tendance à penser, naturellement, on pensait que c'est un peintre flatteur et que pour tant réussir auprès de ses maîtres, il a dû donc faire un art certainement de très haute qualité, mais qui renvoie au roi un portrait courtisan et flatteur de lui-même. Or, ce qui m'a toujours frappé chez Velázquez, c'est cette contradiction entre cette carrière fulgurante, on ne voit guère que Rubens, contemporain de Velázquez, qui atteint une même réussite sociale. Mais tandis que chez Rubens, il y a une flatterie évidente des modèles, quand nous regardons Velázquez, et dès les premiers tableaux, qui sont d'inspiration caravagesque, étonnante, puisqu'il y avait très peu de Caravage en Espagne, et on se demande, ou on pense que c'est plutôt des peintres hollandais, des réalistes hollandais comme Aertsen ou Beukelaer qui l'auraient influencé au début, mais le luminisme est proche du Caravage. Caravage, qui précisément est un peintre qui a réinventé la peinture par son réalisme, c'est du moins ce que dit la légende, et ce réalisme, il n'est pas du tout flatteur, il est plutôt... Enfin, il souligne les rides, il définit le visage dans son individualité, dans la mesure où les corps vont se dissoudre dans la vibration de la lumière dans la seconde partie de la vie de Velázquez, après le premier et plus encore le second voyage en Italie. Cela dit, cet art est d'inspiration réaliste et par conséquent est le contraire même d'un art idéalisant, flatteur et courtisan. Donc la question qui se pose, c'est de savoir comment un homme qui a fait des portraits sans aucune concession, du moins au mensonge et à la flatterie, comment un art aussi réaliste a-t-il pu plaire dans une cour à un monarque qui était soucieux, bien entendu, de son image. Je suis persuadé que les séances de pose de Velázquez devaient être d'une intensité extraordinaire. C'est-à-dire, c'est un homme pour qui la peinture a été le moyen de manifester une vérité par-delà les mensonges du langage. En ce sens, la peinture est vraiment une épreuve de vérité. Il faut poser longtemps, et on pose silencieusement. Dans ce silence, un être se met à nu. Dans les portraits de Velázquez, le modèle, presque toujours, regarde le peintre. Il faut bien penser ce que cela veut dire. Voilà un jeune homme, tout jeune homme, qui va faire face au roi d'Espagne, qui va le regarder droit dans les yeux et faire ce premier portrait qui va le conduire à être admis à la cour. Premier portrait qui ne concède rien au long nez, au bajoux, à la lèvre inférieure très lipue de Philippe IV. Il faut quand même un certain toupet, une audace et surtout une formidable lucidité, un face-à-face.
Hermann Brun Vega, vous êtes péruvien, mais installé en France depuis les années 60, et on peut dire que vous êtes un peintre de la nouvelle figuration. Que représente pour vous Velázquez ?
Velázquez, c'est ça, la grande entreprise de Velázquez, la grande invention de Velázquez, c'est de traiter la lumière, pas dans la forme sculpturique, sinon purement visuelle et lumineuse. C'est-à-dire... Les tableaux maniéristes et rococo sont de la toile vers l'extérieur. Velázquez est de la toile vers l'intérieur. Que chez Velázquez, la grande invention, c'est que si on arrête de regarder le tableau qui est devant nous et on revient de nouveau sur le tableau, on peut imaginer que le personnage a bougé.
Vassili Guillaume Alonso, nous sommes ici en face du portrait d'Olivares.
Ce portrait d'Olivares, c'est un portrait qui montre justement cette espèce de une humanité débordante de cet homme, dans le sens, disons qu'il est, c'est un homme qui a un physique imposant. Il est présenté comme, selon la mode, la nouvelle mode, il n'y a plus la grosse collerette. On a fait une réforme vestimentaire. Il a la petite collerette maintenant. Par exemple, par rapport à ce qu'on voit sur le portrait du Gréco, ils ont toujours la fraise. Là, il y a une petite collerette. Et il a, comme signe de son pouvoir, il est appuyé sur une table, la main appuyée sur une table, exactement comme dans certains portraits du roi. Il porte les clés, il porte son collier, et il porte même ici l'ordre des Calatrava sur son habit. Il est, c'est un homme vraiment qui a une haute opinion, enfin, non seulement de lui-même et de son roi, mais aussi de ce que représente la monarchie espagnole. Et on peut être étonné de voir que Velázquez est très différent. Quand il fait des portraits des cours, parce que finalement ce sont des portraits des cours, peu importe que ce soit des portraits d'individus ou des portraits des groupes, comme les Ménines, il va avoir une approche très différente de ce que l'on fait dans d'autres cours. Par exemple, de ce que va faire Van Dyck par rapport à l'Angleterre, et de ce que fait Rubens, surtout quand avec Marie de Médicis, il n'y a vraiment aucune commune mesure. Nous verrons que dans ces portraits, il n'y a jamais d'allusion mythologique, il n'y a pas cette espèce d'exaltation mythologique, idéaliste de la fonction. Il y a une façon très sobre qui, encore une fois, a poussé à dire que c'était des portraits réalistes. Ce n'est pas le cas. Tout simplement, cette sérénité faisait partie de l'idée qu'on se faisait de la majesté, de l'idée qu'on se faisait du pouvoir.
Jean-Louis Andral, vous êtes le directeur du musée Picasso à Antibes. Alors, parmi les artistes qui ont revisité l'œuvre de Velázquez, il y a bien sûr Goya et Manet, et plus près de nous, Picasso.
Alors oui, bien sûr Picasso, mais vous le savez, il y a évidemment Nicolas de Staël aussi, pour qui Velázquez a été un exemple absolu.
Et quel est le dialogue que Nicolas de Staël a entretenu avec Velázquez, Jean-Louis Andral ?
Alors, je pense que c'est un dialogue ancien, c'est quelque chose qui est intéressant parce que la carrière picturale de Nicolas de Staël n'est finalement pas si longue avec cette fin prématurée. Vous vous souvenez qu'il avait fait ses études à Bruxelles et c'est vrai qu'il a été très sensible quand il était jeune à la peinture flamande, évidemment. Et quand on est dans les Flandres, on est aussi un petit peu en Espagne, hein, compte tenu du contexte à la fois artistique et historique. Et moi, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est cette re-rencontre finalement assez tardive de Staël avec l'œuvre de Velázquez. Vous savez, et qui est lié, si on peut dire, à son séjour à Antibes, puisqu'en fait il arrive les tout derniers jours de septembre 1954 à Antibes, et mi-octobre, enfin début octobre, il projette de faire un voyage en Espagne. Il va faire un petit tour d'Espagne en voiture avec son ami Pierre Lecuire. Et la dernière étape de ce voyage en Espagne sera une halte au Prado, à Madrid, au Prado, dans laquelle, halte au cours de laquelle il va, bien sûr, dans ce qu'il appelle la salle Velázquez, ce qui nous vaut à nous ses réflexions dans la lettre à Jacques Dubourg qu'il écrit à son retour d'Espagne. Et puis je pense ce dialogue qu'il entretenait avec la lumière depuis très longtemps, Nicolas de Staël, et qu'il avait d'ailleurs poussé à vouloir descendre vers une lumière plus méridienne. Donc cette lumière qui est le fondement même de la peinture de Velázquez et qui est tellement importante pour Nicolas de Staël, ce dialogue, je pense, était très nécessaire pour lui. Et puis aussi, bien sûr, l'utilisation de cette palette, de ce chromatisme souvent très sombre chez Velázquez, comme souvent dans la peinture espagnole, et qui, chez Nicolas de Staël, donnera aussi naissance à ces natures mortes sur fond gris, sur fond noir, à ces oppositions de couleurs comme ça, très sombres, où la lumière est là, avec une petite touche parfois de bleu ou de rouge pour rehausser l'éclat austère de cette peinture.
Thank you.
Véronique Gérard-Poel, durant ce séjour à Madrid, Velázquez n'oublie jamais son ascension sociale.
Ses premières années à Madrid sont marquées par cette double carrière, à la fois sa formation de peintre qui prend une ampleur nouvelle face aux énormes collections du Palais Royal. Il s'aperçoit de trous énormes. Il a eu peu d'exemples de peintures italiennes. Il a beaucoup de Titien à regarder. Il va avoir un moment exceptionnel qui est la visite de Rubens à Madrid en 1628. Rubens qui va beaucoup le pousser vers une carrière qui sort uniquement du milieu de peintre. Et donc c'est vraiment à partir des années 1628 que Velázquez cherche à monter dans la hiérarchie des serviteurs du palais, ce qu'il réussira très bien puisqu'il finit en grand maréchal du palais.
Velázquez, à ce moment-là, vous l'avez suggéré, sollicite un voyage en Italie.
C'est sans doute par Gênes, Venise, Rome que Velázquez aborde et séjourne. Son premier voyage est assez court, à peu près à peine un an.
Alors, après ce séjour d'un an à peu près en Italie, où il a beaucoup admiré les peintres comme Tintoret, qu'il copie, eh bien, il rentre à Madrid et le roi lui fait un cadeau vraiment royal. Il lui offre un atelier.
Le roi, donc, donne à Velázquez tous les moyens de travailler avec un atelier dans la Casa del Tesoro, pas loin du palais. Mais surtout, le roi construit un nouveau palais. Il construit le palais du Buen Retiro à la sortie de Madrid. Et ce chantier du Buen Retiro a été une des principales occupations de Velázquez parce qu'il a été chargé de la décoration de la salle principale de ce palais et il a été chargé de superviser et d'organiser le décor du salon des royaumes à la gloire de la monarchie espagnole.
Et c'est ainsi qu'il peint la reddition de Breda, qu'on appelle communément les lances.
Les lances sont un des 12 tableaux représentant des victoires espagnoles que Velázquez avait réparti entre lui et tous les grands peintres espagnols travaillant à Madrid à ce moment-là. Et donc, à l'intérieur même de ce Salon des Royaumes, il y avait ces 12 scènes de bataille, 12 vies d'Hercule, épisodes de la vie d'Hercule peints par Zurbarán, et également 5 portraits royaux.
Alors, Jacques Daruilla, cette reddition de Breda, qu'est-ce que ça vous inspire en tant que philosophe ?
La lecture que j'en fais n'a rien d'original. Tout le monde a souligné le geste. Justin de Nassau, donc, gouverneur de la ville de Breda, se rend à Ambrogio Spinola et lui donne les clés de la ville. Le geste habituel du vaincu devant le vainqueur est de mettre genoux à terre. Ambrogio Spinola, que connaissait d'ailleurs bien Velázquez, puisqu'il l'avait accompagné lors de son premier voyage en Italie, eh bien, arrête justement cette humiliation du vaincu dans le vainqueur. Et le tenant à l'épaule l'empêche de s'agenouiller, et tous deux se regardent, hein, dans un instant qui va faire toute la grâce. Vraiment, on peut dire que ce regard échangé est la clé de voûte de tout le tableau. Velázquez a un grand sens de cette noblesse mutuelle, de cette chevalerie, justement, à laquelle il voulait appartenir et qui fait la dignité de chacun.
Claudie Ressort, Velázquez a peu peint d'œuvres religieuses. Et il y a une grande exception qui est ce Christ en croix.
Il reçoit en effet une commande du couvent madrilène de San Placido. Une composition qui pour lui était quand même quelque chose d'assez familier à Séville. Et dans l'atelier de son beau-père Pacheco, il a vu de nombreux Christ et de nombreuses scènes religieuses. Il reprend du reste à cette occasion une préoccupation du cercle des érudits autour de Pacheco, à savoir comment le Christ était représenté sur la croix. Il y avait trois ou quatre clous, ce qui suppose effectivement pour le corps du Christ une position très très différente. Ici, donc, selon la théorie de Pacheco, le Christ est cloué sur la croix, ses pieds reposent donc séparément et sont fixés par deux clous. Donc, nous avons une position beaucoup plus rigide du corps.
Ce Christ, que le bois supporte plus qu'il ne l'opprime, s'expose au regard non pas dans la blessure insupportable qui fut la sienne, avec les éclaboussures du sang, la transverbération du côté par la lance, mais sous le signe d'une souffrance qui transcende toute souffrance sensible, telle une sorte de misérable chose humaine, mais qui semble offusquer presque tout de sa passion, de ses stigmates. Et cette mèche de cheveux qui vient cacher une partie de la face n'exaspère pas le malheur. Elle soustrait la victime la plus auguste à l'ignominie et la remet entre les mains de la pitié humaine plus encore que de la ferveur. Claude Esteban.
Les années 1630 et 1635, c'est ce que nous appelons les années de la guerre occulte. En fait, la guerre contre la France est là, mais même si elle n'est pas ouvertement déclarée, elle ne sera déclarée qu'en 1635. À partir de ce moment-là, ça sera une guerre ouverte. Mais je pense que véritablement, si le siècle d'or, si le XVIIe siècle est souvent perçu comme un siècle où commence le déclin de l'Espagne, on ne peut absolument pas le dire du point de vue des arts et de la création. Et si nous devions prendre une décennie particulièrement créative, je crois que je prendrais la décennie 1630-1640. Tous les arts, et pas seulement les arts plastiques, mais les arts du spectacle, la tauromachie évolue considérablement. Cette tauromachie dont on dit qu'elle est moderne, qui est née au XVIIIe siècle, elle se prépare là. Mais il y a évidemment le théâtre baroque qui va prendre les dessus sur l'autre théâtre espagnol de Lope qui lui meurt en 1634, mais tous ces hommes, même au bout de sa vie, Lope en 1632, 1633, 1634 va être encore d'une créativité extraordinaire, va donner des pièces magnifiques. Pour la peinture, c'est pareil. Alors, tous les espoirs de la monarchie sont portés sur ce jeune petit garçon né en 1629, Baltasar Charles, et il est gracieux, il est beau. Il nous le montre dans deux portraits, le portrait un petit chasseur et puis le portrait équestre. Ce petit garçon est aussi un troisième, la leçon d'équitation, aussi à cheval. Ce portrait s'inscrit dans la série de tous les portraits équestres de Velázquez. Et évidemment, il est très difficile de ne pas faire une allusion au Titien. Bon, il est évident que le Titien donne en quelque sorte le modèle, comme souvent chez Titien, il donne le modèle à cette peinture européenne de cour surtout, et il donne un modèle qui va être ensuite, je trouve, vivifié ou réétudié, révisité par Velázquez, qui va mettre son empreinte. Et ensuite, il sera difficile de faire un portrait équestre sans tenir compte des portraits de Velázquez.
Quand on parle de Velázquez, on dit toujours qu'il peignait l'air, l'atmosphère, etc. Je ne crois guère à tout cela, et je n'ai jamais saisi ce que ces expressions doivent signifier au juste. L'effet aérien de ces figures vient simplement de l'indécision des contours et des surfaces où il a la hardiesse de les laisser. Pour ses contemporains, c'était des peintures inachevées, et c'est pour cela que Velázquez ne fut pas populaire en son temps. Il avait fait la découverte la plus impopulaire de toutes. La réalité se différencie du mythe en ce qu'elle n'est jamais achevée. Ortega y Gasset.
Pour le peintre que vous êtes, Herman Brunvega, qu'est-ce qu'il y a de plus étonnant dans le génie de Velázquez ?
Sa capacité à conceptualiser son travail, sa démarche. d'un côté, et la fulgurance de son geste pour appliquer la couleur. L'économie dans le geste et l'économie dans la matière. Ces tableaux sont assez aquarellés très souvent. Et dans ce tableau de Prince Baltasar de Carlos, vous pouvez voir ce que je vous dis, si vous regardez les chapeaux du prince, qui s'est travaillé du premier geste par transparence, on voit la toile, et surtout le visage, que c'est une merveille de visage, et la partie à l'ombre du visage, on voit la matière du textile, de la toile. C'est un lavis de couleurs, et là, il s'est arrêté. Les autres peintres finissent par emplâtrer le tableau, de tellement appliquer la couleur pour créer cette illusion de perfection.
Après plus de presque 30 ans maintenant passés à la cour de Madrid, l'homme en a assez. L'homme en a assez de cette cour. Il veut partir et il veut retrouver l'Italie. Les années 1650, c'est un moment où le roi, pour reprendre pied, décide d'aménagement à l'intérieur même de la vieille forteresse royale, de l'Alcazar. Et surtout d'apporter au décor royal espagnol les éléments italiens à la mode, que sont le grand décor à fresques des plafonds et aussi de disposer d'antiques à l'intérieur des collections royales. Et donc Velázquez se débrouille, part à Rome, où en plus il y a une histoire sentimentale. Mais donc, voilà notre peintre quand même, qui est maintenant un peintre de très grand talent, qui arrive donc à Rome à nouveau, mais pas du tout comme le jeune peintre perdu à Rome, hein, l'homme qui est attendu là-bas, qui est accueilli. Et en fait, il reste 2 ans à Rome, il a du mal à rentrer, hein, et pendant ce séjour à Rome, il a réalisé quelques œuvres très importantes. Alors, le problème de cette Vénus est multiple. Pourquoi ? Parce que d'abord, on le sait quand on lit les instructions de Pacheco dans son travail sur la peinture, le beau-père de Velázquez, il est évident que les nus n'est pas courant en Espagne. C'est-à-dire, il est même interdit, de facto. On ne peut pas imaginer une représentation. Je reviens toujours à Marie de Médicis et Rubens. C'est vrai qu'on ne pourrait pas imaginer une représentation d'une reine d'Espagne dans les tenues, telle que la série qui a été faite pour le Luxembourg par Rubens. C'est impensable en Espagne. Mais ici, c'est pour cela que l'on dit que la Vénus a été peinte en Italie. C'est un magnifique nu. On a l'impression, c'est un peu hasardeux peut-être de dire ça, mais je vois une sorte de relation dialectique avec la Vénus d'Urbino du Titien. Alors, évidemment, la Vénus d'Urbain, du Titien, est infiniment plus... Elle regarde les spectateurs. C'est pour ça que j'ai dit dialectique, parce qu'à la limite, c'est vraiment presque comment faire le contraire. Elles sont tournées à l'envers, l'une est à la tête à gauche du spectateur, l'autre là à droite, l'une est des faces, l'autre est des dos. Et la première nous regarde, alors que la deuxième nous regarde à travers un miroir. Alors, nous retrouvons évidemment ce thème du miroir dans la Vénus de Velázquez. Ce thème du miroir, je reviens 2 secondes sur le Ménin, parce qu'il est toujours difficile de ne pas, évidemment, les Ménines vont ne pas faire référence au Ménin, où le miroir a autant d'importance. Dans cette composition de Ménin, on a beaucoup parlé de cette constellation. Évidemment, il faut penser que Philippe IV était le roi planète. C'était une des expressions qu'on utilisait. Donc, on est dans une espèce de vision cosmique du monde. Et dans cette vision-là, la constellation, c'est ce personnage qui sont comme c'est une sorte d'arrêt sur image. Ces personnages, mais qui ont en même temps un dynamisme qui cette composition centrale des Ménines, on l'a vu en Espagne, des possibilités, comme une sorte de constellation, la constellation de la perle au milieu de laquelle cette Marguerite, cette infante qui à ce moment-là était de facto princesse, parce que tant que son frère n'est pas né, l'autre étant mort et sa sœur aînée étant promise, sa demi-sœur aînée étant promise au roi de France, Elle devenait vraiment l'espoir de la monarchie. Elle était perçue comme la perle, c'est-à-dire le centre de la constellation. Et l'utilisation du miroir, en fait, nous la trouvons également dans notre Vénus. C'est une autre façon de nous montrer les choses, nous montrer l'absence présente. C'est-à-dire, il aurait été impensable, me semble-t-il, au milieu de cette famille des Philippe IV, de montrer le roi et la reine. Alors là, on les montre dans le miroir, c'est indiscutable. Ils sont en même temps les centres, ils sont là sans être là. C'est une sorte de présence tutélaire. Ce miroir nous reflète ce visage qu'il aurait été impudique de montrer à côté du nu quelque part. Dans les autres femmes nues, dans les autres grandes nues, je pense pas uniquement à la Vénus d'Urbain, mais évidemment après à Goya, et puis évidemment à la Marcha de Goya, et puis également à l'Olympe de Manet. Les autres trois, si je peux dire, précédentes et postérieures, regardent de façon assez directe le spectateur. Alors que la Vénus, elle ne regarde qu'à travers le miroir.
En 2003, dans ses célèbres Histoires de peinture, Daniel Arras nous éclairait sur les Ménines.
Mais ce qui me paraît plus intéressant en ce qui concerne l'anachronisme de la relation de l'historien à son objet, et en particulier pour l'œuvre d'art, bien, c'est de dire que cet anachronisme, il faut bien sûr tenter de l'éviter, il faut bien sûr tenter de le corriger, mais il faut surtout tenter de l'exploiter. Alors là, c'est une position plus paradoxale par rapport à pas mal d'historiens, ou disons une conception traditionnelle de l'histoire ou de l'histoire de l'art, dire exploiter l'anachronisme dans lequel je me trouve comme historien du début du XXIe siècle par rapport à une œuvre du début ou de la fin du XVIe siècle. Mais parce que cet anachronisme constitutif de ma relation, qu'il soit matériel ou qu'il soit mental, peut aboutir à des résultats théoriques d'un côté, historiques de l'autre, extrêmement intéressants, je dirais fructueux. Alors, je vais prendre un exemple qui est célèbre, c'est celui des Ménines de Velázquez et du fameux texte que lui a consacré Michel Foucault en préface de son livre séminal, et Les mots et les choses. Je crois que la date, c'est 1965 ou 1966. Bon, vous savez, les mots et les choses, c'est une archéologie du savoir, l'épistémé de la Renaissance, le passage à l'âge classique et à la représentation classique, avec le « je pense » qui doit pouvoir accompagner toute représentation. Bien, et Michel Foucault met en exergue, ou en emblème de tout cela, les Ménines de Velázquez, qui ne qualifie, après une magnifique analyse, comme représentation de la représentation classique. Bien, c'est un texte en même temps qui est faux. Il est faux historiquement. Il est inconcevable que le tableau ait pu être pensé de la sorte ou produit avec une telle pensée au moment où il était peint par Velázquez. Et pour une simple raison, c'est que tout le système de Michel Foucault, son interprétation, repose, je cite de mémoire, c'est approximatif, sur, bien sûr, le miroir qui est au fond des Ménines, où se reflète le portrait du roi et de la reine que le peintre est supposé en train de peindre. Vous vous rappelez, les Ménines, Velázquez nous regarde, face au tableau, l'espace où nous sommes, avec sur sa droite, de son point de vue à gauche pour nous, le revers d'une toile qui a apparemment les mêmes dimensions que celle que nous regardons. Puis dans la salle, vous avez l'infante, avec un groupe de suivantes, d'où les Ménines, dans une pièce éclairée par des fenêtres sur la droite de notre point de vue, et sur le mur de fond, à peu près au centre du tableau, parmi d'autres peintures accrochées au mur qu'on distingue mal, un miroir où se reflètent le roi et la reine d'Espagne. Donc, Velázquez est supposé en train de peindre le roi et la reine, etc. Et alors, l'hypothèse de Foucault, sa lecture du tableau, se fonde sur une hypothèse. Il le dit lui-même. Il dit, donc je cite de mémoire, « Il faut feindre que nous ne savons pas ce qui se reflète dans ce miroir. » Nous ne savons pas. Or, historiquement, c'est absolument impossible, puisque ce tableau a été peint à la demande du roi d'Espagne et qui était destiné à son bureau privé. Alors, je ne veux pas imaginer le roi d'Espagne faisant semblant de ne pas savoir que c'est lui qui se reflète dans le miroir qui est au fond. En fait, et je trouve ça passionnant, parce que ce qu'a fait Foucault, et c'est un texte magnifique, ce qu'il a fait, c'est ce que j'appelle démocratiser les Ménines. Il a regardé les Ménines telles qu'elles sont accrochées dans un musée. Effectivement, enfin, je peux feindre que c'est moi qui me reflète là-bas. Enfin, je peux imaginer que c'est moi, spectateur. Et non, puisque justement, c'était le roi dans son bureau d'été, il était seul spectateur. D'ailleurs, le roi était peint au fond du tableau dans un miroir, mais était aussi le destinataire du tableau en face du tableau. Bon, et donc l'idée l'idée que je puisse feindre, ne pas savoir ce qui se représente, que donc, etc., c'est parce que c'est là que s'accroche l'idée du sujet, du je pense, qui accompagne toute représentation, c'est faux historiquement. Et pourtant, cet anachronisme de Ménine démocratique, de Ménine muséale, eh bien, cet anachronisme a été extraordinairement producteur. Il était producteur non seulement du texte de Foucault, ce qui est déjà une très belle chose, mais il était producteur d'un débat théorique considérable et interminable maintenant sur les Ménines, parce que Foucault a lancé une machine théorique qui fait que toute personne ayant envie de faire la théorie de la peinture, à un moment ou à un autre, va être obligée de s'intéresser aux Ménines. Il a lancé aussi tout un débat pour savoir comment était conçue la perspective des Ménines, où était placé le peintre, où était placé le spectateur, etc. Il y a une masse de textes là-dessus considérable. Et surtout, pour un historien, le texte de Foucault a un mérite considérable, c'est qu'il a obligé les historiens de l'art traditionnel à faire attention aux Ménines. C'est-à-dire, pour pouvoir se débarrasser de l'explication proposée, magnifique mais erronée historiquement, de Michel Foucault, eh bien, il y a eu un énorme travail des historiens dans les archives pour comprendre quel était ce tableau. Donc voilà un anachronisme, je trouve, extrêmement, un effet très intéressant de l'anachronisme de Foucault, productif tant au niveau théorique, qu'au niveau de la production historique sur les Ménines. En fait, ce qui est intéressant, je vais continuer encore un peu sur les Ménines, ce qui est intéressant, c'est que le texte de Foucault, donc, est erroné historiquement, mais il n'est pas complètement arbitraire. Parce que, en fait, il y a eu un piège dans le tableau des Ménines, mais un piège dont Velázquez n'est pas l'auteur lui-même. Alors ça, c'est un peu énigmatique, je m'en explique. Tout ça pour développer une phrase de Hubert d'Amiche que j'aime beaucoup, quand il écrit « La peinture, ça ne montre pas seulement, ça pense. » Et il se trouve que les Ménines, telles que finalement nous les voyons aujourd'hui, elles pensent tout seules et, je dirais, indépendamment de ce qu'a pensé faire Velázquez. Parce que ce que ne savait pas Foucault, s'il ne pouvait pas savoir, parce qu'on s'est rendu compte lors de la dernière restauration des Ménines, c'est que les Ménines, telles que nous les voyons aujourd'hui, sont en fait le résultat de deux tableaux superposés. Dans la première version, on l'a vu par la radiographie, il n'y avait pas le peintre en train de peindre. Il y avait le miroir, il n'y avait pas le peintre en train de peindre, il y avait un grand rideau rouge, et il y avait un jeune garçon tendant vraisemblablement un bâton de commandement à l'infante, qui était à ce moment-là juste au centre du tableau. Et à ce moment-là, c'était un tableau dynastique très clair. Il y avait l'infante héritière du trône et, seul miroir au fond, la présence oratique du roi et de la reine comme fondateur, enfin continuateur de cette lignée dynastique. Et centré de manière très intelligente dans le programme politique d'un grand tableau dynastique. Et puis, un héritier aîné, Prospero, quelques années plus tard. Et à ce moment-là, bien sûr, le trône est revenu à l'héritier mâle et non pas à l'héritier femme. Et c'est à ce moment-là que Velázquez, à la demande du roi, a changé la partie gauche pour nous du tableau, a enlevé le jeune homme tendant le bâton de commandement, s'est peint lui-même en train de peindre quoi? Ben, supposément, le roi et la reine qui sont au fond. Donc, le miroir avait changé de fonction, mais garder la même, parce que le roi et la reine demeuraient ces êtres mystérieux, le sujet absolu, je dirais, comme l'a dit, je crois, Louis Marin, dont la présence est à la fois l'origine de toute la représentation, mais est incertifiable dans la représentation. Parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de tableau commun du roi et de la reine. Les archivistes, les historiens ont cherché. Velázquez prétend qu'il peint le roi et la reine ensemble. Non, il n'y a pas un seul tableau du couple royal en une seule surface peinte. Quand il y a un couple, ce sont deux tableaux séparés en pendant. Mais jamais. Donc Velázquez n'est pas en train de peindre le roi et la reine. En s'ajoutant au tableau, il a fait une fiction courtisane. Comme quoi, deuxième version du tableau, il était en train de peindre le roi et la reine quand l'infante est arrivé, etc. Toutes les anecdotes que suggère le tableau. Mais le problème, c'est que, à partir du moment où c'était un miroir qui était au fond, ce miroir, qui avait une fonction extrêmement précise dans la première version du tableau, version dynastique, ce miroir changeait de fonction, il devenait anecdotique et courtisan, mais gardait, en fait, sa fonction dynastique. C'est-à-dire que le tableau, lui-même, est un tableau, insoluble, parce que le même objet central, le miroir relevé dans le roi et la reine, eh bien, change apparemment de fonction, mais garde sa première fonction. Et donc, il y a là, si vous voulez, l'analyse de Foucault, fausse historiquement, en fait, est parfaitement légitime si on fait vraiment à fond l'histoire du tableau. On se rend compte qu'effectivement, Foucault, ne sachant pas l'histoire détaillée du tableau et ses deux versions, a mis le doigt sur ce qui est, à mon avis, le piège maximum du tableau Les Ménines, c'est que dedans, Velázquez ne respecte pas le principe de base de la peinture classique énoncé par Alberti au XVe siècle. Le peintre n'a affaire qu'avec ce qui se voit.
pour parler de Picasso, Jean-Louis Andral, en 1957, il a exécuté une performance.
Il a fait une série de peintures tout à fait extraordinaire en 4 mois finalement, entre le 17 août et le 30 décembre 1957. Là aussi, Picasso avait d'autres maîtres et d'autres modèles. Hein. On se souvient de ce qu'il fera avec Delacroix ou avec Cranach, avec Manet. Velázquez, c'est sans doute un modèle encore plus fondamental, dans la mesure où, d'une part, il partage l'Espagne avec lui, non seulement l'Espagne, mais en plus l'Andalousie. Et puis parce que c'est le père de toute la peinture espagnole, donc il y a forcément là un rapport au père aussi chez Picasso, au père de la peinture qui n'est pas innocent.
Et donc il fait 44 variations sur le thème des Ménines en quelques mois.
En fait, il avait dit, c'est assez amusant, il avait confié à sa Barthès cette idée d'un jour copier les Ménines. Et donc sa Barthès rappelait ce que lui disait Picasso: supposons que l'on veuille copier les Ménines purement et simplement, il arriverait un moment, si c'était moi qui entreprenais ce travail, où je me dirais, qu'est-ce que cela donnerait si je mettais ce personnage-là un peu plus à droite ou un peu plus à gauche? Et j'essaierais de le faire à ma manière, sans plus me préoccuper de Velázquez. Cette tentative m'amènerait certainement à modifier la lumière ou à la disposer autrement, du fait que j'aurais changé un personnage de place. Ainsi, peu à peu, j'arriverais à faire un tableau Les Ménines, qui pour un peintre spécialiste de la copie serait détestable. Ce ne seraient pas les Ménines telles qu'elles apparaissent pour lui sur la toile de Velázquez, ce seraient mes Ménines.
Dans Les Fileuses, Velázquez nous apprend à reconnaître en ses ouvrières du tissage les métaphores du peintre. C'est ce que vous écrivez, Jacques Dariula.
J'avais été en effet frappé par le geste, mais c'est la main gauche de la fileuse de droite qui, de la main gauche, papillonne un peu. On a remarqué que les doigts ne sont pas peints de façon très précise, mais Velázquez a peint le papillonnement des doigts dans la lumière. Et cela fait penser à un peintre qui fait un frottis sur une toile. Donc oui, de même que le rouet est presque comme la femme à son rouet, comme un peintre à son chevalet, tous ces tableaux sont aussi une glorification de la peinture. Le réalisme dans Les Fileuses est très frappant, puisque on met les ouvrières au premier plan. Donc c'est justement l'art mécanique, celui qui est méprisé, celle qui travaille sur le carton du peintre, qui est au premier plan, et c'est au second plan, par une ouverture un peu magique, que l'on voit la scène qui ferait le véritable sujet du tableau, comme si les grands de la terre étaient relégués au second plan, et que la noblesse du premier plan, des premiers rôles, on pourrait dire, était donnée aux ouvriers. Donc au second plan, nous voyons Arachné et Minerve, selon la légende antique. Mais là encore, Velázquez, qui connaissait, on le sait d'après ses bibliothèques, cette légende par Ovide, ne représente pas le moment cruel où la tisseuse qui a osé rivaliser avec Minerve est transformée en araignée, où Arachné devient araignée, le sens de son nom grec. Non, il représente Minerve comme le roi, visitant son atelier de tapisserie et faisant au contraire les éloges d'Arachné. Les éloges du travail d'Arachné. On a identifié la tapisserie, la tapisserie que nous voyons au fond, et elle représente, on le voit très confusément, la forme est noyée dans la lumière, et en partie elle est masquée par la silhouette d'Arachné. Elle représente l'enlèvement de robe du Titien, le Titien qui est un modèle pour Velázquez, d'abord en tant que peintre, et qui est aussi un modèle courtisan, puisque le Titien avait été anobli par Charles Quint.
Vous écrivez aussi que la main de Velázquez est prodigieusement habile à saisir la pulvérisation de la lumière.
Alors, effectivement, on a toujours remarqué cette magie du pinceau, surtout après le retour du second voyage en Italie, de Velázquez, qui parvient en quelques touches à évoquer un motif de broderie ou à faire apparaître une forme vivante. par juste quelques jeux de lumière. Dans la seconde partie de l'œuvre, les modèles n'ont plus la même présence, se découpent plus avec la même intensité, ou plutôt leur présence se dissipe dans la transparence de la lumière. Et on a le sentiment que ce à quoi Velázquez fait face est moins une personne à ce moment-là, avec laquelle dont ils croisent le regard, l'une à l'autre mesurant leur commune humanité, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, c'est moins une personne que, je dirais, le mystère même du visible.
On pourrait peut-être évoquer, Aracely Guillaume Alonso, la promesse de mariage de l'infante Marie-Thérèse avec Louis XIV, qui fait la suite de la paix des Pyrénées, en quelque sorte.
Là, on va sceller la paix, cette paix tant recherchée. On va la sceller, effectivement, sur cette terre frontalière, qui est celle de la Bidassoa, et on va sceller cette paix avec un mariage. Alors, c'était déjà un homme fatigué, Velázquez, à l'époque, mais il avait eu des charges. Alors, il y a sur la vie de Velázquez beaucoup d'inconnus. Il y a beaucoup d'inconnus aussi sur son rapport à la peinture. J'aime beaucoup ce que dit Ortega Gasset, notre grand philosophe espagnol. Il dit que Velázquez, en fait, n'aimait pas tant que ça, qu'il n'aimait pas peindre. Enfin, qu'il aimait bien peindre de temps à autre, mais qu'il n'avait pas la passion que va avoir par la suite quelqu'un comme Goya ou comme Picasso pour donner les grands noms des hommes qui ensuite ont eu comme référent Velázquez. Il disait que autrement on ne comprend pas comment il y a eu si peu de tableaux. L'excuse que l'on donne, ce sont les charges qu'il avait à la cour. Il avait la charge d'être peintre à la cour, le peintre du roi, le peintre officier du roi, très rapidement, en 1624. Mais ensuite, il a eu d'autres charges administratives, mais également avec, il s'occupait de l'organisation des fêtes, des grandes fêtes courtisanes, de la mise en place des décors, de la mise en place des spectacles. C'était une sorte de chorégraphe aussi, d'une certaine façon. Et c'est de cette façon-là qu'il aurait organisé, n'est-ce pas, la passation, la remise de Marie-Thérèse à son époux, à son fiancé, sur la Bidassoa. Il a fait le voyage, il était très fatigué, très peu de temps après son retour à Madrid, dans la foulée, il est décédé, et sa femme, peu de temps après lui, la même année. Ça a été un petit peu, disons, le point final. Il a accompagné, mais je crois qu'il a accompagné Philippe IV, parce que nous n'avons pas évoqué une relation qui est souvent évoquée, qui semble avoir été vraie. Cette idée qu'on a eue à un moment donné, que les Ménines correspondaient à un moment où le roi arrivait à l'improvise dans l'atelier du peintre, de façon totalement improvisée, puis qui trouvait là sa fille et ses suivantes et les nains et les bouffons en train de regarder peindre le peintre, c'est une des théories, une des multiples théories qu'il y a eu autour de Ménine. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y avait ces visites du roi à l'atelier, impromptu, à n'importe quel moment, quand le peintre était en train de peindre. C'est-à-dire, ce peintre était installé dans ce qui avait été auparavant les chambres, la demeure de Baltasar Carlos. Quand le petit garçon est décédé, c'est là qu'on a installé l'atelier de Velázquez. Et c'est évident que il y a eu entre ces deux hommes, on ne peut pas parler d'amitié au sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais de toute évidence, quand le roi a signé, l'a fait chevalier de l'ordre, a signé l'ordre, en quelque sorte obligé le pape à l'accepter, imposer qu'il devienne membre chevalier de l'ordre de Saint-Jacques, c'est-à-dire sans tenir compte du fait qu'il n'était éventuellement pas d'une lignée noble, qu'il avait fait un travail manuel, qu'il avait toute sa vie être un peintre, donc un travailleur manuel d'une certaine façon, il est évident que il a montré toute l'affection, je dois dire, plus qu'amitié, toute l'affection et tout probablement l'admiration qu'il portait à Velázquez. Sans aucun doute, Philippe IV était flegmatique, mais on peut se dire que Velázquez semble aussi avoir été très flegmatique. Et tous les deux, peut-être, cette espèce de silence que nous avons de deux personnages les rapproche. L'un dans sa peinture, l'autre dans sa conception du pouvoir. Ce sont des hommes assez insondables et peut-être qu'ils ont partagé d'abord un goût pour l'art. Ils savaient tout ce qui se faisait. C'était vraiment deux grands esthètes. et que accompagner le roi jusqu'à la frontière et signer enfin cette paix avec la France, c'était une façon d'accompagner le roi lors d'une occasion qui n'était peut-être pas joyeuse pour l'Espagne, mais qui n'était pas non plus, c'était quand même une sortie, disons, diplomatiquement tout à fait acceptable. Bon, c'est vrai, elle perd définitivement l'hégémonie en Europe, c'est la France qui la récupère, c'est la France de Louis XIV qui prend la relève après un siècle et demi de domination espagnole. L'Espagne a encore des beaux jours devant elle, mais cet accompagnement, on peut le lire comme le dernier voyage de ces deux hommes qui ont partagé sans doute beaucoup d'heures de silence, de peinture ou de conversation, on ne le sait pas très bien.
Mallarmé disait qu'un poème ne commence et ne se termine jamais, qu'il fait semblant. Velázquez ne finit pas ses œuvres. Il les ouvre à notre liberté. Mais il nous dit aussi, avec une force visuelle incomparable, qu'en ce monde, rien n'est achevé, entièrement conclu. Pourquoi ? Parce que nous, les hommes et les femmes, nous n'avons pas bouclé le chapitre de notre histoire, si près que nous soyons des frontières de la finitude ou de la certitude. Inachevé jusque dans la mort, oublié ou remémoré, aujourd'hui même, nous contribuons à un passé que nos descendants devront garder vivant s'ils veulent avoir un futur. Carlos Fuentes.
C'était Une vie, une œuvre, Velázquez, avec Araceli Guillaume Alonso, hispaniste, Université Paris 4, Claudie Rossor, chargée d'études honoraires du Louvre, Jacques Darihuila, philosophe, auteur de Métaphores du regard aux éditions Lagune, Véronique Gérard-Poël, maître de conférences à Paris 4, Jean-Louis Andral, directeur du musée Picasso à Antibes, et Hermann Braun-Vega, peintre. Texte lu par Anne Dupuis, Catherine Matelli et Frédéric Prévost. Documentation Maria Contreras. Prise de son Marie-Dominique Bougot, Philippe Etienne et Didier Sudre. Mixage Jean-Michel Després. Une émission de Luc Ponette réalisée par Isabelle Huel.